Qu'est-ce qui t'a amené vers le saxophone ?
Alors, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mes parents avaient des amis qui écoutaient beaucoup de jazz, qui écoutaient beaucoup Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Comme mes parents les fréquentaient beaucoup, j'entendais souvent cette musique, donc ça m'interpellait. Et puis il y a aussi en 86 le film Bird de Clint Eastwood qui est sorti et qui m'a beaucoup marqué aussi. Hein. Voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de me mettre au saxophone, je pense. Quoi.
Quel est ton rapport avec les jazzmen parisiens ? Oh, y a des buffs, ça existe ou bien sûr, tu vas jouer régulièrement ? Non,
ça existe moins qu'avant, mais ça existe encore. Je pense que ça existera toujours, les buffs. Il y a beaucoup de la scène parisienne est très intéressante, très vive. Pourquoi ? Parce que le niveau ne cesse de monter. Il y a toujours des jeunes musiciens qui jouent très bien. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui passent à Paris, donc le niveau reste très haut tout le temps. Très stimulant. On n'a pas le temps de s'endormir, quoi. Il faut toujours travailler et voilà, rester en forme, quoi.
Oh, mais c'est pas une compétition, quand même, si.
Oh, si.
Certains la vivent
quand
comme
même.
Ça.
Non, mais si. Faut être honnête. Même s'il y a de l'amitié, il peut y avoir de l'amitié entre les musiciens, il peut y avoir de l'entraide. C'est quand même un milieu qui est assez individualiste et c'est un milieu très compétitif, quoi. Ah, ouais. Si on fait pas l'affaire, on dégage. On nous appelle pas. Faut être bon. Faut même. En tout cas, il faut donner aux gens l'envie de vous appeler. Donc, faut quelque part, il faut se rendre sexy, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Alors,
quels que soient les moyens, mais oui, il y a beaucoup de. En fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, puisqu'il n'y a pas beaucoup de travail, et il y a beaucoup de très bons musiciens. Donc, voilà, c'est un milieu très concurrentiel, hein, mais comme beaucoup d'autres milieux d'ailleurs.
Hein. Et peut-être moins payant que la variété. Enfin, maintenant, les musiques sont plus payantes vraiment. D'ailleurs.
Ça, c'est un sujet assez vaste et assez sérieux comme sujet, parce que le sujet de la rémunération en musique, moi, j'ai vu un effondrement, quoi. Enfin, je parle pour moi, mais. Avant, dans un concert, je vendais par exemple 10 disques, 15 disques. Aujourd'hui, j'en vends 2 ou 3. C'est-à-dire que les gens n'achètent plus de disques déjà. Dans le meilleur des cas, ils s'abonnent à Deezer ou à une plateforme. Et ils ont bonne conscience parce qu'ils payent 10€ par mois. Mais en fait, le problème, c'est qu'on sait très bien que ces plateformes ne reversent pas, ou très mal, ou très peu aux artistes. Donc il y a eu un effondrement des droits d'auteur. Donc on vend moins de disques. Et en plus, les cachets, en fait, ils ont stagné, ils n'ont pas forcément suivi l'inflation. Donc en fait, je dirais que c'est très difficile, en fait, de vraiment gagner de l'argent avec le jazz, en tout cas, quoi. C'est très difficile.
Même en concert.
Il y a toujours des endroits qui nous payent bien, qui nous déclarent, heureusement, bien sûr. Mais il faut beaucoup jouer, quand on est musicien, il faut avoir plusieurs casquettes, quoi. Il faut enseigner, il faut composer, il faut jouer, il faut faire des concerts.
Il faut être comptable aussi.
Il faut tout faire soi-même. Ouais. On est dans une époque depuis longtemps, hein, depuis Internet, où il faut tout faire soi-même, quoi. On est un peu livré à nous-mêmes, donc c'est beaucoup de travail, quoi. C'est vrai.
Robin, si jamais on souhaite des informations te concernant pour tes concerts, pour les sorties d'albums, il y a sûrement un site sur lequel on peut se rendre.
J'ai plus de site en fait, j'ai un site mais qui n'est plus actualisé depuis longtemps et je vais t'expliquer pourquoi, c'est qu'en fait avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ma musique est facilement écoutable en général sur les plateformes. J'ai une chaîne YouTube aussi où je mets régulièrement des nouvelles vidéos, où il y a une trentaine de vidéos de concerts, de bonne qualité en plus. Donc ça permet déjà d'avoir une idée de ce que je fais. Et puis après pour la musique en général, tous mes disques sont référencés sur les plateformes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour annoncer les concerts, je ressens pas la nécessité de... J'ai pas de site aujourd'hui, en fait, dédié vraiment à mon nom.
Non, mais si on veut te voir jouer en live.
Le meilleur moyen, finalement, c'est de... Soit de s'abonner sur YouTube à ma chaîne, soit de s'abonner, de me suivre sur Facebook, par exemple, ou Instagram. Et souvent, je donne les dates de concerts et tout, et là, c'est le meilleur moyen de savoir où je joue et quand, voilà.
À part cette rentrée, tu as déjà des dates prévues pour cette année ?
J'ai pas énormément de projets, donc j'ai ce projet de sortie de disque là qui est imminent. Et j'ai aussi en parallèle, là il y a quelques semaines, on vient de faire une série de dates en trio, avec donc toujours Fred Pasqua à la batterie et un contrebassiste marseillais qui s'appelle Pierre Finichel. Donc ça c'est un trio avec lequel on joue depuis 4-5 ans maintenant, avec lequel on joue régulièrement. Là c'est vraiment trio, contrebasse, batterie, sax. Et là c'est un autre répertoire, hein, bien sûr c'est autre chose, c'est une autre musique. On a commencé à enregistrer, on va sortir un disque probablement l'année prochaine. Donc il y a aussi ce projet-là en parallèle. Il y a peu de temps on a joué à Saint-Eutule, la boutique de la bière, on a joué à Pellevoux. On va rejouer là cet hiver probablement à Rayanne au Café du Cours, parce qu'il y a des amis qui m'ont dit « il faut absolument que tu viennes jouer ». Enfin voilà, on a quelques dates dans la région, donc je vous tiendrai de toute façon informé des prochains rendez-vous quoi, dans la région.
Robin, ta discographie ?
Alors en quelques dates, mon premier disque 99 avec Larry Schneider qui s'appelle Hommage à Art Pepper, sorti chez Charlotte Productions. Deuxième disque enregistré à la Buisson 2001 en trio, Olivier Chabas, Philippe Barriec, donc La Flamme et la Fumée. Troisième disque, Lumière en sextet, enregistré à la Buisson aussi. Quatrième disque, Nouvelle Ère, sorti en 2010 chez Altruisioni. Et il a fallu donc que j'attende 10 ans pour faire la suite, donc Building and Piano Studies, avec quasiment les mêmes musiciens de jazz qu'il y avait sur Nouvelle Ère, plus Quatuor à cordes. Voilà.
Avec une, quand même un passage chez Tabasco, on va dire, un groupe auquel tu as activement participé.
C'est voilà, plus que ça. On a fait deux disques avec Tabasco, qui est plus orienté sur le groove et le blues, puisque le premier disque s'appelle The Last Blues, et la suite, The Very Last Blues. Voilà, et puis quelques apparitions sur, comme je te disais, sur d'autres disques, d'autres genres. J'ai même fait un peu de rock progressif, un peu de funk. De manière assez, on va dire, épisodique, hein, mais ça m'est arrivé de travailler avec des anciens élèves et d'apporter mon concours comme ça à d'autres projets. Et ça me plaît aussi d'écrire dans d'autres styles, voilà, de me challenger dans d'autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien sûr, je suis plutôt dans le jazz, mais j'essaye quand même de toujours essayer de me mettre au service du projet. Et d'essayer de vraiment raconter une histoire. Le style, finalement, ça importe peu. Participer, créer un arrangement, faire un solo qui est dans l'esprit. Voilà, toujours essayer de ne pas perdre le fil, de raconter une histoire, que ce soit du rock progressif, de la funk, de la musique classique. Il faut toujours raconter quelque chose, quoi. Voilà, ça c'est important. Il me semble, quoi, raconter une histoire, quoi. Ce que je voudrais souligner sur ce disque, c'est aussi que ce disque... Il aura une valeur un peu particulière dans mon parcours. Ce disque aussi est lié à la mémoire du décès de mon papa. Et c'est aussi pour ça que... Ouais, Alain Niquez. Et c'est aussi comme en fait, en 2013, mon papa était mort il n'y a pas longtemps et que j'étais très très marqué par sa disparition. Et bien, pendant longtemps, ce disque, en tout cas la suite Building, était vraiment lié pour moi émotionnellement à sa disparition. Donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir en fait ce disque. J'ai mis du temps à le sortir. Il a fallu que je me détache un peu émotionnellement de... Donc c'est pour ça que ce disque, voilà, si on lit jusqu'au bout l'hommage, il est à la mémoire de mon papa, Alain Niquez, et aussi à la mémoire d'Edouard Chappe, qui est mon grand-père de cœur, qui m'a appris mes premières phrases, mes premières gammes blues à l'époque, quand j'allais à Oraison, à l'Harmonie. J'avais 13-14 ans, il m'a fait étudier les chorus de Charlie Parker, enfin il m'a donné les bases du jazz, des accords, etc. Donc il y a un double hommage vraiment dans ce disque, quoi.
Donc la construction, finalement.
Building, ça représente aussi l'héritage. Ouais. Du coup, la construction au sens métaphorique, c'est l'héritage de mon papa, c'est l'héritage... d'Edouard Chappe, qui est le grand-père, parce que j'ai connu aucun de mes grands-parents, enfin de mes grands-pères. Ce monsieur, Edouard Chappe, ça a été pour moi un grand-père de substitution de cœur, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Edouard Chappe a donné son nom à la nouvelle école de musique d'Oraison qui s'appelle Edouard Chappe, qu'il a passé sa retraite à Oraison. C'était un retraité de la SACEM qui a écrit plus de 800 morceaux, qui a composé et fait danser à Marseille après la guerre. Donc c'était un compositeur vraiment renommé. Et c'est quelqu'un qui avait une oreille, l'oreille absolue, une superbe oreille. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a donné beaucoup de conseils précieux dans la musique. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup coaché, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a légué son saxophone. Je joue sur son saxophone. J'ai la chance et le privilège de jouer sur son saxophone. Et en plus, en tant que musicien, compositeur, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, quoi.
Pour clore cet entretien, Robin,
quel est le dernier morceau qu'on va diffuser ?
Je suis assez pragmatique, hein. J'ai fini le disque par The Happiness We Share, la joie que l'on partage, le bonheur que l'on partage. Okay. Et c'est un morceau joyeux, je trouve. Et c'est, en plus, c'est un morceau que j'ai écrit à l'occasion du mariage de Frédéric, donc Fred Pasqua. Pour cette occasion, j'avais écrit ce morceau-là qu'on a joué. Et là, du coup, il clôture ce disque et je le joue en piano solo. Donc moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un morceau joyeux. Et c'est bien de terminer sur une note positive, quoi.
Alors, Robin, trouve ce disque chez qui et où ?
C'est une distribution exclusivement par le biais de Clapson. Donc, à partir du 9 septembre, il sera en téléchargement et en achat donc sur la plateforme numérique et donc Bandcamp, en fait, quoi, surtout. Et les gens peuvent le commander auprès de mes soins et ils pourront l'acheter en concert, et, etc., etc. Et peut-être occasionnellement dans les boutiques qui ont envie de le prendre. Et juste, je voulais signaler aussi la petite particularité de ce disque, c'est que j'ai mis alors je sais que c'est de l'actualité, le QR code en ce moment, hein, mais là c'est un QR code positif, parce que j'ai fait mettre un QR code sur mon disque, qui sera valable pendant un an. Et les gens pourront télécharger gratuitement en fait toutes les partitions en PDF des études pour piano. C'est le petit plus pour les musiciens qui veulent jouer cette musique-là, quoi.
D'ailleurs, oui, c'est là où on voit le terme d'études, parce qu'on peut penser que les études pour piano, c'est destiné à des élèves pour étudier le piano.
Oui, alors il y a ça, parce que comme tu sais que j'enseigne beaucoup la musique, bien sûr, je suis tout le temps en rapport avec des étudiants. Donc s'il y avait à la fois ces compositions pour me faire plaisir, mais aussi à destination des jeunes étudiants, quoi.
Ces études pour piano, elles sont extrêmement diverses, en fait. Des univers très différents, en tout cas.
Oui, et alors... J'avais cette volonté d'écrire dans des métriques différentes, à des tempos différents, dans des tonalités majeures, mineures, que ça soit varié. Parce que comme c'est des pièces courtes, je voulais un peu comme un haïku, par exemple.
Que ça soit efficace.
Que ça aille à l'essentiel, puis que ça soit vraiment des tonalités différentes.
Pas de bavardage et mm-hmm. Pas d'ennui non plus.
Ben j'espère. J'espère.
Thank you.